Les lectures de ce dimanche sont en pleine consonance avec ce printemps finissant qui, dans quelques jours, va céder la place à l'été. Des images qui nous montrent l'éclosion foisonnante de la nature. Il est question de graines, d'herbes, d'arbres, d'oiseaux, de nids, etc. Des images que Jésus utilise pour nous faire comprendre quelque chose. D'abord, la gratuité de ce don, de cette fécondité dans la nature. Une gratuité qui, à chaque nouvelle saison, à chaque nouveau printemps, nous étonne, nous émerveille, oriente notre cœur vers celui qui en est la source. De cette fécondité, une fécondité désarmante, tellement elle nous semble excessive. Pour une graine qui va germer, combien de milliers, voire de millions d'autres qui vont être semées à tout vent et qui ne germeront jamais. Il y a donc cette gratuité déconcertante du royaume dont ces paraboles nous donnent une belle image. Mais il y a surtout cette petite phrase qui n'a l'air de rien et qui nous renvoie à notre propre existence, à la propre façon dont nous l'envisageons. Jésus nous dit que cette graine que l'homme a déposée en terre, a semée, continue à éclore, à faire son travail mystérieux, même si l'homme dort, qu'il se couche, qu'il dorme, qu'il soit actif, sans qu'il comprenne pourquoi, tout ce processus vivant continue. Et il y a là quelque chose, je crois, d'extrêmement important pour nous. C'est que cette vie qui remplit tout l'univers, non seulement la nature, mais nous-mêmes en tout premier, reste un mystère incompréhensible pour nous. Incompréhensible dans le sens où nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Bien sûr que nous pouvons entrer dans une connaissance toujours plus profonde, mais jamais nous n'achèverons la compréhension de ce dynamisme vital que Dieu dépose dans ses créatures. Et la grande leçon pour nous, c'est que celui qui est la source même de la vie, Dieu, continue son processus que l'homme y pense ou n'y pense pas. Et en fait, celui qui est déterminant, c'est toujours cette source, c'est Dieu lui-même. Cela montre l'inanité, l'inutilité de toutes nos agitations quand nous prétendons vouloir maîtriser constamment notre vie. C'est certes le défaut de toutes les époques, mais je pense que c'est particulièrement celui de notre époque. Combien de fois nous entendons des réflexions du genre « des réflexions pleines de suffisance, entre parenthèses. Oui, oui, ça va, je maîtrise, je contrôle la situation. C'est effroyablement faux, d'abord, et c'est surtout prendre la place de quelqu'un que nous ne pourrons jamais remplacer, Dieu lui-même. Dieu qui porte toute vie, celle de la nature, mais encore de façon plus intéressante, j'ai envie de dire, la nôtre. Combien d'agitations dans notre vie, complètement frénétiques et désordonnées, quant à l'organisation du futur. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être imprudent et imprévoyant. Jésus a des paraboles pour nous le dire. mais s'il ne fait pas l'éloge de l'insouciance et de l'irresponsabilité, en tous les cas, il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous n'avons pas, nous n'aurons jamais la maîtrise de l'avenir. Et combien de fois nous nous usons parce que nous nous demandons comment allons-nous faire, qu'allons-nous faire. Je n'ai aucun pouvoir sur demain, et vous non plus, strictement aucun. Mon seul pouvoir, c'est de remettre ce demain dans les mains de celui qui possède, lui, la vraie puissance, lui qu'on appelle aussi Providence. Dieu pourvoira. Cela nous est très bien décrit ou évoqué dans la grande prière que nous avons entendue au début de cette messe, où il est dit de l'homme qu'il est fragile et qu'il ne peut rien sans Dieu. Alors, le constat, s'il s'arrêtait là, serait terrible. Mais la prière nous fait justement demander, ou elle nous fait remarquer, que Dieu est, ce sont les mots de la prière, la force de ceux qui espèrent en lui. Et tout autre alors est ma manière d'envisager ma vie si je comprends que la force essentielle de mon être ne vient pas de moi. Non pas que j'ai à démissionner de ma vocation humaine et chrétienne, j'ai bien évidemment à l'assumer pleinement, mais je ne peux assumer que ce qui m'appartient et je dois laisser le reste à Dieu. Se comporter de façon inverse, comme nous le faisons trop souvent, c'est une prétention absolument incroyable. Je crois pouvoir la qualifier de luciférienne. Vouloir, en réalité, prendre la place de celui qui est irremplaçable, Dieu. Dans la deuxième lecture, dite en allemand, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, deux fois, à deux reprises et avec insistance, Paul relève la valeur inégalable de la confiance. Ayez toujours confiance. Confiance ne signifie pas insouciance, désintérêt, mais le mot confiance évoque immédiatement quelque chose de capital qui réellement apporte une lumière tout à fait nouvelle dans notre vie. Confiance signifie, implique une relation. J'ai confiance en quelqu'un. Ce quelqu'un, s'il est réellement le fondement de ma vie, va contribuer à me donner confiance aussi en moi-même. Mais c'est un deuxième temps. En tous les cas, nous voyons très clairement que ce mot confiance ne peut être utilisé et n'a de sens que dans le contexte d'une relation. Et en qui ai-je confiance? En qui vais-je mettre ma confiance, si ce n'est en Dieu lui-même, sans lequel, nous redisait la prière de tout à l'heure, je ne peux rien. Chers frères et sœurs, il me semble que dans l'activisme souvent effrayant dans lequel nous nous débattons, il est bon de s'arrêter sur cette leçon de ce matin, de cesser de vouloir être des tout-puissants dans notre vie, ce qui est totalement impossible, et enfin de laisser la place à Dieu, parce que c'est à lui qu'il revient de gouverner nos vies, notre propre vie, même s'il ne le fera jamais en prenant notre place. Il a trop de respect, c'est-à-dire trop d'amour pour nous, et nous pouvons lui faire confiance néanmoins qu'il ne défaillera jamais si nous savons le prendre comme le roc solide de notre vie.